VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Anastasie Tudiache et Anne Albertson avec vous. Au sommaire de ce vendredi 19 février, Anne.
En Côte d'Ivoire, condamnation hier à perpétuité de 3 militaires pour l'assassinat de l'ancien chef de la junte, le général Robert Gaye.
En Guinée, les grévistes toujours mobilisés malgré l'arrestation d'une quinzaine de syndicalistes.
Au Niger, la société civile juge le vote par témoignage illégal.
La Turquie a intensifié ses bombardements en Syrie.
Et le pape François qualifie les idées anti-immigration de Donald Trump de pas chrétiennes. Politique, répond Donald Trump.
Avant la Minute Éco et les sports, voici le journal.
En Côte d'Ivoire, un tribunal militaire siégeant à Abidjan a condamné hier 3 militaires à la prison à perpétuité pour l'assassinat en 2002 du général Robert Gaye, ex-chef de la junte. Des précisions avec Eric Manirakiza.
Le commandant Anselm Sekayapo, ancien chef de la garde, rapproché de Simon Gbagbo, le général Bruno Dogbo-Blé, ancien commandant de la garde républicaine, sous Laurent Gbagbo, et le sergent-chef d'Aleba Seri, écope de la prison à vie. 6 autres prévenus ont été condamnés à 10 ans en prison. Faute de preuves, le tribunal militaire a relaxé 10 autres personnes. Les avocats des condamnés ont promis de faire appel des sentences prononcées après un mois de procès. Le général Gaye, 61 ans, ainsi que des membres de sa famille, ont été tués par balle le 19 septembre 2002. C'était après un coup d'État manqué contre le président Laurent Gbagbo. Ce putsch manqué avait entraîné la prise de contrôle de la moitié nord du pays par une rébellion dont le chef de file était Guillaume Soro, aujourd'hui à la tête de l'Assemblée nationale ivoirienne. Le général Robert Gaye avait dirigé une junte après le coup d'État du 24 décembre 1999 contre Henri Konan Bédié. L'année après, il a été battu par Laurent Gbagbo à la présidentielle. Ayant tenté de se maintenir au pouvoir, il en a été chassé par la rue.
La grève générale se poursuit en Guinée où une quinzaine de syndicalistes ont été arrêtés jeudi au quatrième jour du débrayage. Les grévistes réclament une réduction du prix du carburant ainsi qu'une revalorisation des salaires. Les précisions tout de suite de Lionel Gahima.
Omar Barry, un responsable de l'Union syndicale de travailleurs de Guinée, a confié à l'AFP qu'au moins 16 membres de cette centrale ont été interpellés. Selon lui, il s'agit essentiellement de responsables de sections syndicales de la banlieue de Conakry et de Ratoma et Matoto, deux communes de la capitale guinéenne ayant connu jeudi de heurts entre les jeunes et des chauffeurs de taxi et de transports en commun. Des incidents qui avaient entraîné une intervention de forces de sécurité. Les jeunes avaient érigé des barricades sur la voie publique pour empêcher toute circulation, disant appliquer le mot d'ordre de grève. Le mouvement semblait également suivi dans plusieurs villes de l'intérieur du pays, notamment Labé dans le nord, Mamou dans le centre et Kissidougou dans le sud-ouest. Des négociations sont en cours depuis mercredi entre les représentants du gouvernement, les syndicats et le patronat pour tenter de trouver une solution.
Au Niger, ONG et associations membres de la société civile réunies au sein du collectif Résistance citoyenne qualifient d'illégal et inacceptable le vote par témoignage avalisé par la Commission électorale nationale indépendante. Moussa Tchangari, secrétaire général de Résistance citoyenne, s'est exprimé au micro de Nicolas Pinault.
C'est une décision grave parce que dans les faits, elle ouvre la voie à des fraudes. Potentiellement, les gens savent que ça donne la possibilité de frauder, qu'ils tiennent à ça. Sinon, ce n'est pas dans la loi et donc on ne devrait pas parler de vote par témoignage. Et la CENI, en prenant cette décision, s'arroge une prérogative qu'elle n'a pas, celle de décider voilà, en fait, comment on identifie un électeur qui peut voter, qui ne peut pas voter. Ça, c'est la loi qui détermine. Malgré tout ça, on va se mobiliser. On ne sait pas ce qui peut se passer et donc nous appelons les gens à se mobiliser. Et les moyens de la société civile, c'est les appels à conscience, c'est les déclarations, mais c'est naturellement aussi les manifestations de rue, c'est aussi les journées ville morte, etc. Et donc tous les moyens qui sont en notre possession, nous allons les utiliser si nous voyons qu'il y a nécessité de faire ça.
Au Burundi, la peine de mort pourrait être réintroduite. Le ministre de la Défense nationale a expliqué devant les membres de l'Assemblée nationale dans quelles conditions la peine capitale pourrait s'appliquer. Correspondance de Christophe Nkurunziza.
Interrogé par des membres de l'Assemblée nationale de commander le coup d'état avorté du 13 mai 2015 à Bujumbura et de la manière de juguler des expériences pareilles dans le futur, le ministre burundais de la Défense nationale, Emmanuel Ntamvukiye, a affirmé que la peine de mort peut être réinstaurée pour punir les récalcitrants.
Une commission est à l'œuvre pour voir comment la peine de mort pourrait être réintroduite. Elle a déjà été abolie dans le code pénal burundais, mais pour des gens qui pensent faire de tels actes dans le futur, oui à la peine de mort.
La peine de mort a été abolie dans la législation burundaise en 2009 par le président burundais Pierre Nkurunziza. Le maximum des peines aujourd'hui est la prison à perpétuité. Quatre généraux avaient été condamnés à perpétuité en janvier dernier dans un procès des 28 militaires et policiers accusés d'avoir voulu renverser les institutions. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Au Soudan du Sud, des hommes armés ont ouvert le feu sur des civils dans une base des Nations Unies mercredi soir. Bilan au moins 18 morts et une quarantaine de blessés. Maëlys Hegel.
Cette attaque a eu lieu dans la base de Malakal, dans le nord-est du pays. Ce camp accueille plus de 47 500 réfugiés, soit un quart des 200 000 civils répartis dans les 8 bases onusiennes du pays. C'est mercredi soir qu'ont commencé les échanges de tirs entre jeunes de différentes ethnies, les Dinka et les Chilouk. Les tirs de Kalachnikov et de mitrailleuses se sont poursuivis jusqu'à hier matin. L'identité des assaillants n'est pas encore confirmée, mais ils ont semé la panique dans le camp. Après cette énième attaque, M. Ban Ki-moon a demandé une nouvelle fois aux dirigeants sud-soudanais d'appliquer l'accord de paix. Le 12 février dernier, le président Salva Kiir a réinstallé Riek Machar comme vice-président, poste qu'il avait occupé entre 2005 et 2013. Une avancée symbolique dans la mise en œuvre de cet accord signé en août dernier. Mais le chef de la rébellion ne s'est pas encore rendu à Djouba, capitale du pays, pour prendre ses fonctions. Depuis le début de la guerre civile, plus de 2,3 millions de personnes ont été déplacées et des dizaines de milliers tuées.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et ailleurs dans le monde, la Turquie bombardait intensément hier soir des zones contrôlées par les Kurdes dans le nord de la province d'Alep, en Syrie. C'est ce qu'a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Le directeur de l'OSDH, Rami Abdelrahman, a précisé à l'AFP que les bombardements visaient le bastion kurde d'Afrin et non plus seulement les zones contrôlées depuis peu par les forces démocratiques syriennes, les FDS, coalition arabo-kurde dominée par les unités de protection du peuple kurde, YPG. Appuyés par les raids aériens russes, les forces démocratiques syriennes se sont emparées de plusieurs localités qui étaient contrôlées par les rebelles dans le nord de la province d'Alep, non loin de la frontière turque. L'avancée des FDS alarme la Turquie qui les bombarde depuis samedi.
Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a fait état cette nuit de progrès dans les négociations avec Londres sur le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, mais il a souligné qu'il reste encore beaucoup à faire. Pour le moment, je peux seulement dire que nous avons fait certains progrès, mais il reste encore beaucoup à faire, a déclaré M. Tusk à l'issue de la première journée d'un sommet européen décisif à Bruxelles.
Ici, aux États-Unis, passe d'armes inhabituelle entre le pape François et Donald Trump. Interrogé sur les positions anti-immigrés de M. Trump, François a répondu « Une personne qui veut construire des murs et non des ponts n'est pas chrétienne », tout en précisant qu'il ne souhaitait pas s'immiscer dans la campagne. La réponse du candidat républicain ne s'est pas faite attendre. « Qu'un leader religieux mette en doute la foi d'une personne est honteux », a indiqué Donald Trump dans un communiqué. L'échange ne s'est pas arrêté là. Au journaliste qui lui rapportait les déclarations de Donald Trump, jugeant qu'il faisait de la politique, le pape François a ironisé. « Grâce à Dieu, il a dit que j'étais un politique, car Aristote a défini l'homme comme un animal politicus. Au moins, je suis un homme. » Donald Trump avait annoncé en juin qu'il ferait construire un mur à la place de l'actuel grillage entre le Mexique et les États-Unis s'il était élu président. Mercredi, lors d'une messe transfrontalière inédite à Ciudad Juárez, devant plusieurs dizaines de milliers de personnes, le pape François a à nouveau dénoncé la tragédie humaine des migrations forcées.
États-Unis toujours, où les fabricants d'armes et leurs puissants lobbies renforcent leur campagne de marketing ciblant les enfants en proposant des carabines 22 LR allégées pour les petits garçons et des pistolets roses pour les fillettes, selon une étude publiée hier. Selon le rapport de 54 pages rédigé par le Violence Policy Center, une association de lutte contre les violences par armes à feu, les enfants entre 6 et 12 ans se voient proposer notamment une série de carabines 22 LR conçues avec une gamme de tons vifs s'inspirant des crayons de couleur. Dans certaines zones du pays, les armes à feu sont devenues la deuxième cause de mortalité infantile après les accidents de la route.
Vous écoutez VOA Afrique, c'est la Minute Écho tout de suite avec John Linden.
Au Gabon, la date butoir de migration de l'analogique à la télévision numérique terrestre est fixée à décembre 2016. Mais la TNT gabonaise devra encore attendre le contrat conclu entre le gouvernement gabonais et le groupe chinois Star Times, signé en août 2015, est encore conditionné par l'instruction et la validation d'un prêt de 178 millions de dollars de la China Exim Bank, servant à financer l'installation de 200 émetteurs et la migration vers la diffusion numérique de la télévision. Au Cameroun, EcoBank se lance dans la finance islamique. Selon financialafrique.com, l'objectif poursuivi par EcoBank est d'améliorer ses prestations, mais également élargir ses parts dans le marché camerounais. Ainsi, le groupe bancaire panafricain, à travers sa filiale au Cameroun, a proposé à ses clients le compte d'épargne Moudaraba. Ce format de compte obéit aux exigences de la finance islamique. Au Sénégal, le Salon international de l'habitat se tiendra les 3, 4 et 5 mars. Ce prochain à Dakar, organisé par le ministère du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie du Sénégal, ce salon aura pour thème principal la contribution du plan Sénégal émergent à l'accès au logement.
Merci John Linden. Place au sport maintenant, Eric Manirakiza. Alors Eric Manirakiza, en football, Joseph Blatter dit « Mon départ, c'est d'une tristesse ».
Le président démissionnaire de la FIFA l'a exprimé dans une interview avec la radio RMC. Joseph Blatter a déclaré, je cite, « À la FIFA, depuis 40 ans, on a développé le foot. Il n'a jamais été aussi bon qu'actuellement. Vous n'avez qu'à jeter un œil sur la Ligue des Champions pour voir la qualité du foot. Le départ, comme on prépare, c'est d'une tristesse. Mais que voulez-vous ? Il y a des situations où vous n'avez pas d'armes et d'un coup, vous n'avez plus d'amis », a-t-il déploré. Et sollicité par certains candidats et certaines fédérations pour leur apporter son soutien à l'élection du nouveau président, Blatter a dit simplement ceci, « Votez ce que vous souhaitez, ce qui vous semble le mieux pour la FIFA en votre âme et confiance. »
Europa League, Tottenham prend un petit avantage face à la Fiorentina.
Tottenham a arraché un nul, un but partout de son déplacement en Italie face à la Fiorentina et s'approche de la qualification pour les huitièmes de finale de l'Europa League pour l'une des affiches des 16e de finale. Et Anastasie, le match a été de bonne qualité malgré quelques absences au coup d'envoi, contraintes ou choisies par des entraîneurs qui jouent encore sur plusieurs tableaux.
Foot toujours, Dortmund qui est solide, Manchester United qui sombre, et c'est au Danemark que ça se passe.
Oui, le Borussia Dortmund s'est montré appliqué dans le choc de la même compétition 2-0 contre Porto, contrairement à Manchester United qui a sombré hier contre les modestes Danois de Midtjylland, 2-1. L'entraîneur néerlandais Louis van Gaal a ainsi fait référence à la célèbre maxime du scientifique Edward R. Murphy. Tout ce qui est susceptible de mal tourner tournera nécessairement mal. Pas mal comme Punch Anastasie. Il faut aussi noter que le tenant du titre, le FC Séville, s'est imposé 3-0 à domicile contre le club norvégien de Molde.
Dopage, prêt à bannir l'athlétisme kényan des Jeux olympiques de Rio.
Le président de la Fédération internationale d'athlétisme a rappelé que son instance n'hésiterait pas à interdire des Jeux olympiques que les nations qui trichent avec le dopage, notamment le Kenya, si cela est avéré. Ce n'est pas du bluff, Anastasie, car la Russie est depuis suspendue aux prochains Jeux de Rio, étant soumise à un certain nombre de mesures à prendre sans délai dans la lutte contre le dopage. Sébastien Coe ne badine pas.
Et enfin, NBA à Atlanta, fin de saison pour Splitter, qui est forfait pour les Jeux olympiques de Rio.
L'international brésilien d'Atlanta, Thiago Splitter, va se faire opérer de la hanche droite et sera absent jusqu'à la fin de la saison NBA, soit 8 mois. Il ne participera donc pas aux Jeux Olympiques 2016 dans son pays.
Merci Eric Maniarakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Deuxième partie du Monde aujourd'hui, Anastasie Tudiech avec vous. Tout de suite, les dossiers du jour. Au Niger, dernier jour de campagne, ce vendredi, la journée d'hier a été marquée par la dénonciation par la société civile du vote par témoignage. Plus festif et politique, le dernier grand meeting de campagne du président sortant Mahamadou Issoufou, il avait lieu à Niamey, au stade Séni Kountché. L'envoyé spécial de VOA Afrique, Nicolas Pinault, y était.
Une marée rose s'est abattue sur le stade de la capitale nigérienne. Les militants du PNDS et de la quarantaine de partis qui soutiennent Mahamadou Issoufou sont venus entendre leur président candidat. Beaucoup de militaires sont présents pour quadriller les abords du stade et les gradins. La lutte contre Boko Haram et un coup d'état déjoué récemment expliquent certainement le dispositif sécuritaire. Mais il y a comme un décalage entre le président nigérien favori à sa succession et son discours lu entouré par des militaires bien visibles.
Aujourd'hui, notre pays, le Niger, est un îlot de paix et de sécurité. Alors que beaucoup de voisins, comme la Libye, comme le Mali, comme le Nigeria, font face aux menaces terroristes. Parce que nous avons renforcé les capacités opérationnelles et les capacités de renseignement de nos forces de défense et de sécurité.
Mahamadou Issoufou s'appuie sur son bilan pour annoncer une victoire par KO dès le premier tour dimanche, à l'instar des voisins Alassane Ouattara, Roch Kabore ou encore Mouhamadou Bouhari. Le candidat Issoufou promet 8000 milliards de francs CFA sur le prochain quinquennat s'il l'emporte.
Nous allons remporter cette élection, Inch'Allah, dès le premier tour. Et nous avons des arguments. J'ai un excellent bilan. J'ai promis que ce sécheresse ne sera plus synonyme de famine. Aucun Nigérien aujourd'hui n'a même de faim.
A noter dans les tribunes, un invité d'honneur, le président du Front populaire ivoirien, sur VOA Afrique, Pascal Affinguessan, affirme être venu en tant que camarade de l'international socialiste.
C'est un ami qui est candidat à sa réélection. Il est important qu'on soutienne les amis. Mais ensuite, et surtout parce que nous appartenons à la même famille politique, et l'expérience qui est menée ici est une expérience qui honore l'ensemble de la famille socialiste à travers les résultats élogieux que le président Youssoufou a réalisés, qui montrent bien que le socialisme est la voie aujourd'hui en Afrique pour l'émergence de notre continent.
À la sortie du stade, les militaires du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme sont évidemment convaincus par leur candidat.
C'était important pour moi d'être là parce que je voudrais vraiment apporter mon soutien au président Issoufou. Et vu son programme de Renaissance 1, je souhaite de tout mon cœur que le président Issoufou fasse un deuxième mandat pour pérenniser tout ce qu'il a pu faire pour la Renaissance du Niger.
Ce jour-là, j'ai dit 18 février, ça va nous marquer de notre histoire. De notre mémoire. Le 21 février, Inch'Allah, 100% un coup KO. Ça, il n'y a même pas à dire.
Plus de 7,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes le 21 février prochain. Nicolas Pinault, Niamey, VOA Afrique.
VOA Afrique, au Niger, à Niamey, 24 heures sur 24, sur 102.5 FM.
Au Congo-Brazzaville, le général Jean-Marie Michel Mokoko est convoqué pour aujourd'hui par les services de sécurité de Brazzaville. Il a indiqué hier à VOA Afrique qu'il ne comptait pas se rendre à cette convocation et on verrait plutôt son avocat. Ancien chef d'état-major, il était jusque début février représentant spécial de l'Union africaine en Centrafrique et conseiller du président Sassou Nguesso pour les questions de sécurité. Il a annoncé sa candidature à la présidentielle du 20 mars et son retour à Brazzaville le 9 février a été assez mouvementé. Pourquoi a-t-il décidé de se lancer dans la course à la présidence ? En exclusivité pour VOA Afrique, le général Mokoko répond à Idriss Fall.
D'abord parce que je suis un citoyen congolais, c'est mon droit le plus absolu de vouloir solliciter le suffrage de mes compatriotes en ce qui concerne l'ascension du président de la République. Deuxièmement, je pense que je suis un homme d'expérience. J'ai observé comment les choses se passent dans notre pays et j'ai réfléchi à ce qui serait possible de faire. Donc je pense que moi j'ai des propositions allant dans le sens de l'amélioration de ce qui s'est déjà passé dans notre pays à mes compatriotes. C'est pour ces raisons-là, je pense que... Je pourrais me présenter effectivement à cette élection qui est ouverte à tous les Congolais.
Mais qu'est-ce qui a été le déclic? Parce que jusqu'au 3 février, vous étiez encore conseiller du président Sassou Nguesso.
Oui, mais monsieur, ce n'est pas une décision qu'on prend comme ça à la légère. Moi, je me suis toujours défini et je pense que mes compatriotes savent que je suis un homme de devoir. Donc, pour ceux qui pensent qu'être président de la République est une fonction banale, moi, je ne crois pas. Je pense que c'est une fonction qu'il faut prendre très au sérieux, il faut mûrir sa décision et c'est donc le 2 février au soir que j'ai pensé que ma réflexion était faite et que ma décision pouvait être prise. Et pour être libéré de tout attachement avec l'institution président de la République que j'ai servi avec honneur et loyauté, j'ai pensé qu'il était bon que je coupe les amarres pour pouvoir exprimer librement ce que j'aurais à exposer à mes compatriotes.
Et qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau comme changement?
Mon passé, ma vie, les simples citoyens sont des références qui peuvent retenir l'attention de mes compatriotes. Je suis quelqu'un qui pense que ce pays a besoin qu'au niveau, par exemple, de l'administration, qu'on entreprenne un certain nombre de réformes allant dans le sens de la moralisation de l'administration publique. Mon expérience dans mes responsabilités passées montre que sans une administration soucieuse du respect des lois et règlements et des procédures, il est difficile de faire de l'économie. Il est difficile de faire du social. Enfin bref, il est difficile d'engranger des programmes qui fassent que le pays soit respecté, les partenaires qui viennent vous aider au développement se sentent protégés par vos propres lois, par votre justice, etc. Donc je pense que la première chose que je ferais, c'est remettre un peu en bon ordre au plan politique l'administration publique de laquelle dépend beaucoup de choses.
Est-ce que vous avez pris attache avec les nombreux candidats de l'opposition?
Bon, les candidats de l'opposition, oui, ce sont des personnalités que je connais. J'ai discuté avec chacun d'eux. Je pense qu'au niveau du premier tour, chacun va évaluer un peu son potentiel. Le meilleur d'entre nous, bon, en ce qui me concerne, si je ne suis pas au deuxième tour, j'apporterai mon soutien à celui avec qui j'aurai discuté, avec qui nous serons entendus sur la vision qu'il a de notre pays et des inputs que je pourrais apporter si l'on est d'accord.
Le général Jean-Marie Michel Moukoko, candidat à la présidence au Congo-Brazzaville. Au Tchad, la police a dispersé hier à N'Djamena des lycéens qui s'étaient mobilisés pour dénoncer la mort d'un de leurs camarades, abattu lors d'une manifestation décriant le viol d'une lycéenne. Dans un point de presse tenu hier, le ministre tchadien de la Sécurité et de l'Immigration, Ahmad Mahmad Bachir, a accusé les lycéens voulant marcher d'être instrumentalisés par des groupes de politicards. Timothée Dodongmaï a recueilli la réaction de Maître Adou Mahmad Boukar, ancien président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme.
Dans son point de presse, le ministre de la Sécurité n'a pas apporté de précision par rapport au viol de cette jeune fille et l'assassinat du jeune Abachou Hassan Ousmane. Il a proféré des menaces, des intimidations à l'endroit des organisations de la société civile qui exigent que toute la lumière soit faite dans cette affaire. Il menace aux gens qui manifestent au motif que les gens n'ont pas une autorisation de marcher.
En tant que défenseur des droits de l'homme, que pensez-vous de l'idée qu'il faut une autorisation pour marcher?
Mais on n'accorde jamais les autorisations. C'est un droit reconnu par la Constitution et par nos lois, le droit de manifester. Même si une manifestation est pacifique, on ne l'autorise pas. Et en cas de manifestation, on n'hésite pas à recourir à des moyens de répression. Donc cette fois-ci, compte tenu de gravité de l'acte posé, les gens ont sorti, ont marché spontanément. Mais maintenant, au lieu de résoudre le problème, ils cherchent à menacer ceux des Tchadiens qui veulent que toute la lumière soit faite par rapport à cette affaire.
Alors de quel recours disposent les citoyens dans ce cas?
Le premier recours reste la justice. D'ailleurs, une plainte a été formellement déposée par les parents des lycéens assassinés. contre X. Et en ce qui concerne le viol de la fille, la petite Zoura, les auteurs sont déjà appréhendés et une information a été ouverte.
Avez-vous espoir que justice sera rendue dans ces deux cas?
Nous sommes sceptiques puisque par le passé, nous avons vécu des situations où des cas de crimes, de violations des droits de l'homme où la justice a été saisie, mais nous n'avons pas obtenu satisfaction. L'année passée, les policiers qui ont torturé les enfants, ils ont été déférés à la justice. Et juste une peine légère de 6 mois et les gens n'ont même pas écopé les peines à infliger. Donc, nous attendons ce que la justice va dire.
Selon vous, comment s'explique cette situation qui frise l'impunité?
Moi, je pense que cela est dû à la volonté politique. C'est des autorités haut placées qui sont soit l'auteur des infractions, soit leur progéniture. Et le plus souvent, la justice n'a pas les moyens de sévir contre le dignitaire du régime.
Maître Adoum Mahamat Boukar, ancien président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, joint à N'Djamena.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
À Cotonou, comme dans toutes les capitales africaines, la mode tient une place de choix. Les femmes veulent être à la mode, épater le voisinage et montrer qu'elles sont dans les nouvelles tendances. Ainsi, depuis peu, elles ont fait leur entrée dans le monde du placement de fossiles avec toutes les conséquences fâcheuses pour cet organe sensible du corps humain qu'est l'œil. Descente dans l'univers des femmes cotonoises qui adorent placer des fossiles. À travers ce reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Elles sont nombreuses, ces femmes cotonoises qui pensent que le regard est un pouvoir de séduction implacable. Il faut donc aiguiser le regard pour le rendre foudroyant. Pour y arriver, elles s'adonnent au placement de faux cils.
Moi, je place les cils d'abord pour moi-même. Je les place à des occasions spéciales, pour des grandes sorties, car ça me métamorphose et je me sens bien dans ma peau.
Moi, je place les cils parce que les cils me rendent belle. Mon mari me trouve encore de plus belle et ça pimente encore le couple, quoi.
Regard foudroyant ou pas, certaines femmes préfèrent rester en marge de cette mode qui, selon leur dire, fait plus de mal que de bien.
J'ai pas l'habitude de faire. C'est des choses qui font beaucoup mal. Parfois, quand tu fais, tu n'es pas à l'aise. J'ai fait une, deux fois, je ne suis pas trop à l'aise, je suis obligée d'enlever. C'est tout comme si tu pleures, quoi. C'est tout comme si tu ne vois pas de loin. Il faut écarquiller les yeux, regarder correctement avant de voir la chose, alors que la chose est devant toi.
Je ne vais jamais même faire ça. Parce qu'il y a des gens, en faisant les cils le matin, ils n'arrivent même pas à ouvrir les yeux. Ça endommage les yeux, mais on n'essaie pas.
Celles qui vont dans les instituts de beauté ont de la chance de s'en sortir sans grand danger. Mais pour celles qui préfèrent, à moindre coût, se faire placer les cils au bord de la voie, sont exposées à tous les dangers. Rien qu'à écouter celles qui a pour métier de placer les faux cils, on se fait une idée du mal que certaines femmes se donnent au nom de la beauté.
Pour placer du cil, tu prends tes cils qu'il te faut. Il y a moyen, petit et long, laquelle tu choisis. Bon, on pose ça avec du colle. Les cils naturellement que tu as, on ouvre ça et puis on met du colle dedans et replace les faux cils. Des fois, si les gens finissent directement, ils vont à la pharmacie pour acheter des médicaments, commencer par mettre sur les yeux. Ça fait mal, difficile à dormir. Comme on voulait être belle, ou bien pour faire belle, on est obligé de supporter.
Pour l'ophtalmologue, le phénomène est au cœur de plusieurs interventions chirurgicales, s'explique.
Souvent, ces cils-là qu'on met, des fois ça tombe, ça se renverse sur l'œil et ça touche la cornée. Là, de temps en temps, ça gratte, ça fait des lésions sur l'œil. Alors que nous sommes en Afrique, quand il y a ces lésions, il y a la moindre poussière qui rentre dedans, la plaie s'agrandit. Si on ne sait pas faire, ça va nous créer pas mal de problèmes. L'œil est infecté et jusqu'à ce que, des fois, on enlève l'œil. Hein. Tout dernièrement, on en a rencontré, on était obligé d'éviscérer l'œil.
La beauté a un prix, mais s'il doit vous coûter les yeux de la tête, mieux vaut s'abstenir. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VO Afrique.
Ainsi Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci pour votre attention. La mise en onde était assurée par Anne Albertson. À la console, c'était Daryl Smith. Et avec vous, pour la présentation, Anastasie Tudiech. Retrouvez-nous sur Facebook. Et pour l'information 24 heures sur 24, rendez-vous sur voafrique.com. Bonne journée à toutes et à tous à l'écoute de VOA Afrique.